This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonne année à tous et c'est le retour du Rendez-vous Tech en live en plus. Tout va bien, on va parler du CES et du meilleur de ce qu'on y a vu. On va aussi parler de NFT, de Web3, de décentralisation, de réalité virtuelle, de métavers. Et oui, tout ça a fait l'actu et on vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonne année. Bonjour Cédric, bonne année à toi.
Salut Patrick, très bonne année à toi, qui arrive, évidemment, habitant à l'autre bout de la Terre, à échapper à Omicron, ce qui est assez exceptionnel.
Écoute, je dois dire. On pourrait penser que, mais la situation finlandaise est assez comparable à celle de la France. Ils ont commencé
Tout ça pour ça.
Tu vois, mais enfin bon, disons que si j'étais à Helsinki, ça serait la même chose. Moi, dans ma campagne perdue, effectivement, voilà, c'est ça, au milieu de la forêt, et donc c'est un petit peu plus isolé, et à moins que je fasse tu sais, la randonnée de 2 heures jusqu'au village voisin, a priori, j'ai peu de chance de... À pied, ça prend bien 2 heures.
Ah, à pied, tu m'as fait peur.
À pied. Oui, non, quand même, il ne faut pas exagérer. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. J'espère que vous avez apprécié les épisodes spéciaux qu'on vous a concoctés pendant ces vacances. Et j'espère surtout que cette année commence extrêmement bien pour vous tous et vous toutes, même si l'année... Je faisais la plaisanterie sur Twitter, je disais quand même, l'année 2020, elle a été très très longue. Hein. J'espère que 2021 se passera mieux.
Oui, bon. Voilà.
Oui, c'est un petit peu ça. Mais on a quand même des
fin 2020, on se disait, de toute façon, on fera jamais pire.
Et là, 2021
est arrivé en disant hold my beer.
Non, je sais pas si c'était pire 2021 quand même. Moi, on pourrait en débattre. Épisode spécial peut-être à un moment. Qui était pire 2020 ou 2021? Peut-être qu'il faut attendre 2022 pour avoir toutes les données et comparer les 3 années. Mais bon, on verra.
C'est ça, attendre d'avoir du recul.
Bon, écoute, ce dont on peut parler avec une certaine certitude, c'est le CES, et on va vous résumer le meilleur de ce salon qui était un petit peu particulier. Avant de se lancer là-dedans, je voudrais évidemment remercier Brunel, Xavier, Diden, Darune, Manga, Ludovic. Je ne sais pas si Manga c'est son prénom et Ludovic c'est son nom de famille, mais tout est possible. Manu Ribeiro, JL Beast, Antoine Mel, Éléonore Frère, Hersher, Gauthier Rod. Et un petit mot spécial pour Juju Keke qui m'a mis ce petit message en devenant patriote qui me dit « Oui, j'ai commencé par Upload il y a plus de 10 ans et le Rendez-vous Tech depuis le début. Et à ce jour, et ce jour-là, ma fille aînée de 16 ans me dit dans la voiture « C'est encore Patrick que tu écoutes là ?» Et bon, finalement, tu lui donnes un peu de sous ou toujours pas ? Et du coup, il s'est senti tellement coupable que sa fille lui le met devant ses contradictions qui s'est dit « Bon, ben, je vais devenir patriote. » Donc, un grand merci à toi, ça m'a fait beaucoup rire pour ouvrir l'année.
À dire à sa fille que son petit chèque cadeau pour Fortnite arrive.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et évidemment, merci au producteur de l'épisode, Peter Rigal, et un nouveau producteur SSI78. Merci à vous deux et à tous ceux qui trouvent le niveau secret où on peut devenir producteur. C'est un niveau secret sur Patreon. Merci à vous tous en tout cas. Vous me permettez de bien commencer l'année. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes patriotes, l'after show aura lieu tout à l'heure. Donc, si vous voulez participer et que vous êtes patriote du niveau 2, vous pouvez, sinon vous l'entendez quand vous êtes patriote dans l'épisode sur le flux privé. Je me disais que ça serait sympa de parler de nos chaînes YouTube préférées. Un petit truc un peu léger comme ça en début d'année. Et moi, j'ai quelques suggestions assez sympathiques dont j'aimerais vous parler. Donc, si vous voulez vous lancer, si vous êtes dans la chatroom, par exemple, bonjour à tous dans la chatroom, eh bien, on pourrait parler de tout ça ensemble. Et donc, le CES, il y avait quand même des choses intéressantes présentées, des choses intrigantes, comme toujours, des concepts dont on ne sait pas s'ils verront le jour dans la réalité, s'ils seront en vente un jour. L'une des plus grosses news du CES, évidemment, c'est que les trois quarts des sociétés ont annulé leur présence physique. Et donc, même si techniquement il était possible de s'y rendre et que certains l'ont fait, c'était quand même un CES presque virtuel. Toi, tu n'y es pas allé d'ailleurs, Cédric, généralement.
Non, pour la première fois en 16 ans. On ne parle pas de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était une édition purement quasiment virtuelle. Mais et honnêtement, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que tout le salon serait annulé, parce que la tendance était quand même pas très haussière. Et j'ai beaucoup de respect pour mes amis et camarades qui y sont allés. Je pense à Jérôme Colombin, à Pépé Garcia, enfin, tous ces gens. Et qui donc ont vu un CES totalement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. C'est-à-dire arriver dans un grand hall central, le hall central de CES, et arriver sur des stands vides, enfin c'est terrifiant. Même se promener dans Las Vegas, être sur Las Vegas Boulevard en plein après-midi, et il y a personne, il y a pas une voiture, il y a peut-être un taxi qui passe. Non, c'est terrifiant. C'est un petit côté post-apocalyptique, tu vois ce que je veux dire.
Mais tu sais où elles étaient toutes les voitures.
Elles dans le tunnel.
Toutes. Et voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le tunnel de Elon Musk, de la Boring Company, la compagnie fait des trous.
Qui fait des trous.
Voilà. Ils ont construit leur tunnel, ou ils ont creusé leur tunnel dans CES, sous Las Vegas pour permettre de se déplacer plus facilement. Il avait promis qu'il n'y aurait plus d'embouteillage grâce à ce tunnel. Il a mis, 50 Tesla dedans. Et le jour du lancement, il y avait un embouteillage monstre dans le tunnel. Il était complètement bouché. Là, c'est littéralement. Et c'est ça. Bon, ça fait rire parce qu'on aime bien se moquer d'Elon Musk. Mais
ça fait rire, sauf si t'es claustro, t'as coup. Parce que ça, c'est un tunnel qui est assez fin. C'est vraiment espèce
t'as
de.
T'as la place
tube.
Pour une voiture en largeur, quoi.
C'est tout. Pour une voiture. Et moi, on rigolait parce qu'on dit nous, on a des équivalents. C'est à l'ouest de Paris, t'as une portion de l'A86 qui est payante avec une espèce de tunnel à deux étages. Bon, très bien. Qui est un peu comme ça, déjà assez bas de plafond. Mais là, c'est non seulement bas de plafond, mais c'est bien serré sur les côtés.
C'est pire que ça. Ils ont il n'y a pas de tunnel d'évacuation, il n'y a pas de tunnel secondaire, il n'y a pas de... mais c'était dramatique la manière dont c'est construit.
Si t'as jamais vu, c'est un côté Goldorak Go, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, c'est ça, exactement.
Voilà.
Ouais.
Transformation. Tu sais, parce qu'ils rediffusent Goldorak, ça y est, en France et tout, c'est chouette. 74 épisodes, allez les voir.
Bon, donc, ça, c'était pour l'introduction, mais il y a quand même eu des trucs sympas. Moi, j'ai noté le meilleur, les trucs qui m'ont paru les plus intéressants. Il y avait des télés, des laptops, bizarres et différents, mais intéressants aussi, des voitures, et puis, bien sûr, les trucs un petit peu plus traditionnels, des puces, etc. Mais pour les télés, je crois que le gros morceau, c'est le Quantum Dot OLED. C'est un nouveau type de dalle qui est conçu par Samsung, qui allie en fait le meilleur du LCD et de l'OLED. Pour ceux qui ne savent pas, le LCD, l'avantage, c'est que c'est très brillant, donc on a une très bonne luminosité, sauf que l'éclairage se fait par un éclairage derrière les LED de couleur, oui, c'est ça, et donc il est très difficile d'avoir des noirs vraiment profonds, vraiment très, très noirs, en fait, et donc le contraste n'est jamais aussi bon que sur l'OLED, où sur l'OLED, on a la lumière qui est émise directement par les LED de couleur elles-mêmes, et donc quand elles sont éteintes, eh ben, c'est le noir absolu, et donc le contraste est infini entre la brillance maximum et le noir, qui est la brillance minimum. Je ne suis peut-être pas bon sur les termes, il y a une histoire de luminance, de brillance, je ne sais pas. Mais bon, vous comprenez.
Le contraste, c'est la différence entre le point noir et le blanc.
Et le blanc. Et le Quantum Dot OLED résout les problèmes. Ah oui, parce que l'OLED, le problème, c'est que comme on n'a que cet éclairage-là, eh ben, souvent, la luminosité maximum n'est pas fofolle. Elle n'est pas aussi importante que sur le LCD. Et généralement, l'OLED est l'écran de meilleure qualité, considéré comme les écrans de meilleure qualité. Mais on avait cette question de luminance. Et eh bien là, le QD OLED, Quantum Dot OLED, arrive. Donc, encore une fois, des dalles Samsung qui sont utilisés dans la première télé, c'est une Sony, si je ne m'abuse. Et il y a donc les avantages de la lumière profonde et des noirs profonds aussi. Donc, ça devrait être la prochaine technologie télé qui est le must pour la qualité de l'image.
C'est bien parce que qu'on a t'as quand même tu vois des nouvelles technologies qui arrivent en télé, ce qui n'était pas évident. En fait, l'histoire c'est que l'OLED à la base n'avait pas de problème de luminance, enfin de luminosité, quand on le comparait au LCD. Sauf que le LCD a continué à avancer et avec le QLED, avec tout ça. Et là, d'un coup, ça devient un souci, surtout que toutes les télés sont passées au HDR. C'est-à-dire que t'as envie, dans la même image, d'avoir énormément de contraste avec des zones très claires, des zones très sombres. Et là, d'un coup, l'OLED, ouais, on prenait un petit coup. Même si, honnêtement, vraiment, tu vas chez LG et tu prends les derniers écrans OLED, c'est des choses oui, absolument... Enfin, la qualité d'image est vraiment sublime. J'ai envie de dire qu'avec le recul, on pinaille un peu, mais on peut toujours faire mieux, donc...
Ça, c'est le propre du testeur de produits tech, hein. Que ça soit voilà. Du QLED, à vrai dire, même les écrans LCD aujourd'hui, ils sont d'une qualité incroyable. Mais quand tu as les deux l'un à côté de l'autre, bon, bah, l'OLED était quand même le maître et surtout les télé LG que tu mentionnes. Là, ces dalles Samsung risquent de reprendre le dessus et elles sont dans des télé Sony maintenant, mais bien sûr, elles vont arriver sur les Samsung, ils vendent à tout le monde, hein. Donc, je suis sûr que d'autres.
Oui, non, ils n'ont que des amis. Mais en fait, la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est un saut technologique tel qu'il justifie de changer de télé. J'ai envie de dire non, gardez votre télé le temps qu'il faudra et soyez juste heureux de savoir que quand vous aurez envie d'en changer, il y aura une chouette nouvelle technologie que vous pourrez adopter. En plus, ça lui laissera le temps de baisser un peu en prix parce qu'on le sait, les early adopters payent toujours quand même une sérieuse taxe.
C'est ça.
La taxe sur la nouveauté.
Il y a eu d'autres télévisions intéressantes. Samsung a fait des télés avec la possibilité d'acheter des NFT dans les télés. Alors, on parlera de NFT tout à l'heure, mais enfin bon.
Alors, ouais, bon.
OK.
Mais, le problème, c'est la mise à jour des plateformes logicielles derrière, etc. Bon, enfin bref.
Ça n'est que l'un des problèmes. Et il y a aussi des télés avec des hubs gaming qui vous permettent de streamer directement les jeux depuis Google Stadia ou GeForce Now, mais pas de cloud Microsoft, donc la plateforme Xbox, qui est sans doute le meilleur deal pour les questions de streaming, si on met, alors pas techniquement, mais pour la disponibilité des jeux.
En termes de contenu.
C'est ça. Ouais. Mais donc, c'est intéressant de noter que les télés commencent à intégrer ces plateformes. Et donc, pour les utilisateurs, si on a la connexion qui est correcte, on n'a même pas vraiment besoin de console, même si cette télé-là permet de faire passer le signal de la manette à travers la console, à travers le HDMI et jusqu'à la télé. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais c'est possible.
Ah, au travers de la console. Ah, ouais. Oui. Si, il y a une norme qui te fait passer les signaux par le HDMI, qui est connue comme le loup blanc, mais ça ne me revient pas, pour passer des signaux de télécommande, etc. Mais je ne savais pas que ça permettait de passer les signaux de la manette, surtout avec des questions de lag et tout ça. Mais c'est amusant, moi, ça me rappelle, il y a quoi? Il y a 8 ans, 9 ans, le lancement de la PlayStation 4, souvenez-vous. Vous qui
PlayStation 4, ah oui, c'était 2013. Oui,
2000, t'es sûr que c'était pas... Ah oui, non, t'as probablement raison. Et qu'on était allé voir en avant-première à Tokyo et tout ça, et j'avais interviewé le patron de PlayStation de l'époque en lui disant, mais en fait, c'est la dernière que vous lancez, la dernière console physique, probablement, parce que la prochaine, ce sera un truc qui sera intégré au téléviseur. Il avait souri, genre, je t'aime un peu moins déjà. on pourrait parler juste de ce... Voilà, s'il te plaît.
On pourrait parler de cette course maintenant, là, ça serait...
Voilà, le meilleur vendeur, c'est celui qui te vend ce qu'il a sous la main. Mais lui disait, oui, évidemment, il va y avoir des... Ah, mais sachant que Sony fait aussi des télés, donc à la limite, tu vois, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, même si c'est deux divisions différentes. Mais voilà, c'est un truc dont j'étais persuadé depuis longtemps. Bon, en fait, j'ai eu tort, il y a bien une PS5, elle est très très bien. Mais tout juste, j'ai envie de dire. Y aura-t-il une PS6?
La question peut se poser, moi je pense qu'on n'y est pas encore, mais peut-être pour la suivante. Bon, il y a aussi des laptops, bien sûr, des ordinateurs portables qui sont assez intéressants. Est-ce que tu as vu... Attends, il faut que je retrouve les images.
Celui d'Asus, hein, c'était ça.
Celui de Lenovo, avec son écran secondaire à côté. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. C'est un écran qui est en fait intégré qui est à côté du clavier, en fait. C'est hyper bizarre, mais il est à côté du clavier, sur la droite. Donc, c'est un portable qui est assez grand. Et il est à côté du clavier. Il a un écran, qui est un écran secondaire. Il y a aussi c'est pas Asus non plus, qui a fait un pliable, mais carrément un vrai pliable.
Ça.
C'est Asus, ouais. Celui-là, je ne me souviens plus. Oui, c'est...
Ouais, ou le clavier
c'est le
vient
Zenbook
se coller...
ZenBook Fold, ouais.
C'est ça.
Mmh. Vient se coller sur la moitié de l'écran. Et tu viens poser un clavier sur le...
Voilà.
Je sais pas. Hein. Je suis... Ah, écoute, c'est des concepts intéressants qu'il est intéressant de tester, mais... À la limite, je me demande si l'écran secondaire sur le côté, pour des questions de productivité, sur le côté du clavier, n'est pas plus intéressant que le laptop complètement pliable avec un écran qui fait toute la largeur, qui prend... je ne l'ai pas bien expliqué. C'est un ordinateur qui ressemble à une tablette, sauf que c'est un ordinateur qui tourne sous Windows, et donc il est pliable. On a les deux côtés, le côté écran et le côté écran... Enfin, le côté écran et le côté clavier qui sont en fait un grand écran qu'on peut plier. Puis on peut poser un clavier sur un côté de l'écran pour le transformer en laptop plus traditionnel. Ça me paraît un peu difficile à utiliser. Celui qui a un écran, un gros écran quand même, qui fait toute la longueur de la partie clavier sur le côté droit, pour des questions de productivité, on peut avoir, productivité, on peut avoir Twitter sur le côté en permanence.
Bon, comment te dire ?
Oui.
Raconte ça à ton employeur. Enfin, tu vois, c'est... Non, c'est pour ça. Les questions de productivité, c'est important que j'ai une machine avec un écran. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est Discord.
Voilà, exactement. Mais si c'est le Discord de la communauté du Rendez-vous Tech, ça va, ça passe, tu vois, c'est pour te tenir informé.
Ça va pour toi. Hyper
bien. Très bien. Oui. Bon, t'as pas l'air hyper séduit par ces écrans, je sais ce qui va te parler.
Non, mais ça fait très longtemps que les constructeurs cherchent, tu vois, des nouveaux form factors et explorent des choses, les tests, les montres. Moi, j'étais allé voir un jour le centre de design d'Asus, ils font des trucs absolument remarquables. Après, il y a le filtre de... bon, on sait le faire, est-ce qu'on va en vendre ? Est-ce que les gens en veulent vraiment ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Enfin, etc. Mais c'est pas mal que... Ça, il date de quand, le premier laptop ? Amstrad, quelque chose comme ça. Qu'on continue à essayer de trouver autre chose que juste un clavier en bas, une charnière et un écran au-dessus, quoi.
Ouais, c'est sûr. Mais jusqu'à maintenant, le modèle est populaire. Enfin, le modèle fonctionne. Parce que tous ces trucs, on en a vu des tonnes et aucun n'a vraiment gagné même pas en popularité, mais en utilisabilité. Donc,
Dans le même temps, tu vois bien que la tablette n'a pas tué le laptop. Il y a des choses qu'on a du mal à renouveler entièrement. Et
c'est sûr.
C'est peut-être une bonne chose.
Ouais, ce qu'on a vraiment vu comme évolution dans le laptop, c'est juste plus fin, mieux construit, plus de batterie, mais pas le concept n'a pas fondamentalement changé. Google a annoncé un truc intéressant également, c'est leur ensemble, comment ça s'appelle, Better Together, leur initiative Better Together, qui en fait, on sait que Apple copie Google, Google copie Apple dans le mobile tout le temps. Là, pour le coup, c'est Google
qui copie.
C'est ça. Et c'est un ensemble de protocoles, de standards qui vont permettre aux téléphones Android d'interagir avec les autres machines de votre écosystème, que ça soit, par exemple, assez notablement, les écouteurs, les petits écouteurs Bluetooth comme les AirPods, les équivalents, ils pourront se connecter à différentes machines automatiquement. C'est la chose qu'on note plus spécifiquement. Il y a des moyens d'envoyer des fichiers d'une machine à l'autre. Et une partie de ces fonctionnalités pourra fonctionner également avec des PC Windows. Donc, ça marche bien sûr avec l'écosystème Google, Android et les Chromebooks, ces choses-là. Mais ça marchera aussi en partie sur les PC Windows. Courant 2022, ça sera implémenté. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment hyper pratique dans l'écosystème Apple. Et je suis content que ça arrive ailleurs aussi.
Ouais. En gros, si t'es 100% Apple, ça va te rappeler Continuity, ça va te rappeler AirDrop, bien évidemment.
C'est ça.
Mais que d'autres avaient fait un Huawei AFM, mais ça marchait qu'avec les laptops et les téléphones Huawei, c'était un peu limité.
Oui.
Et puis, le fait de pouvoir déverrouiller ton ordinateur avec ta montre, là aussi, j'ai déjà vu ça quelque part.
Mais c'est plutôt
de bonne guerre. Hein.
Et puis justement, puisqu'on parle de standard, tu te souviens, comment il s'appelait le standard des objets connectés et des objets de la domotique il a commencé avec un autre nom. Non, moi je parlais
des
de celui
protocoles plus que des standards.
Ouais, moi je parlais de celui qui est en cours d'élaboration par Apple, Google, Samsung.
Matter.
Enfin, tout ça. Oui, ça
Matter.
C'est leur nom aujourd'hui. Bref, moi je cherchais le nom, le nom initial.
Avant.
Peu importe, d'accord. Aujourd'hui, il s'appelle Matter et il devrait vraiment être lancé 2022. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'une des choses, alors il y a peut-être plusieurs raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles l'informatique, la domotique vraiment n'a pas aussi bien marché qu'on aurait pu l'espérer, c'était ces problèmes de standard qui font que bah, si tu achètes une ampoule d'une marque et un interrupteur d'une autre, eh ben, ils ne vont pas se parler, ça ne va pas marcher ensemble. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une entrave au développement de l'écosystème, au-delà même du fait que bah, les gens n'aiment pas forcément les produits qui sont disponibles aujourd'hui. Je dirais même que c'est une entrave au développement de l'écosystème et peut-être à l'exploration de, d'autres types de fonctionnalités qui pourraient arriver. Eh bien, enfin, Matter se lance. Il y avait des doutes pendant un ou deux ans sur leur capacité à vraiment produire quelque chose. Et là, ça se fait. Tous les appareils compatibles Matter seront compatibles entre eux. Et c'est un standard qui est, c'est ça qui est important, soutenu par les plus grosses sociétés de la tech. Et on inclut Apple et Google là-dedans et pas que. Le petit bémol, le petit point noir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été dit sur la rétrocompatibilité. Donc, les appareils existants, ceux que vous avez déjà, il n'est pas garanti qu'ils soient compatibles avec Matter.
Alors,
ou qu'ils soient
ça dépend parce que, le, parce que Matter, en fait, est opéré autour du consortium Zigbee. Ça veut dire que peut-être que les appareils qui étaient déjà Zigbee arriveront à devenir Matter. Tout ce qu'on peut se souhaiter. Je pense, entre autres, à, tu vois, les petites centrales pour opérer tes ampoules Philips, ce genre de choses. Mais enfin bon, c'est bien de dire du passé faisons table rase. En même temps, ça arrive peut-être au bon moment. Mais, parce que c'est vrai que là, même pour avoir essayé pas mal de choses. Alors il y a des choses qui sont très qui marchent bien. Moi, HomeKit avec Apple, ça marche bien, mais c'est limité en termes d'offres. Et alors après, il y a des choses qui marchent, tu vois, qui te disent ouais, je fonctionne avec ton Alexa, ton Google Assistant, ton tout ça.
Mais c'est souvent faut aller développer pour l'un ou pour l'autre, et c'est très
pas vraiment. Mais à chaque fois, il faut que tu aies téléchargé, tu vois, pour une ampoule connectée, une prise connectée, des choses simples. Hein, il faut que tu aies téléchargé l'obscure application chinoise du fabricant pour le connecter au truc. Enfin, ça devient un tout petit peu une usine à gaz. Quand ça marche, c'est super, mais dès qu'il faut que tu refasses un peu de maintenance dessus, il faut que tu te souviennes du nom de l'application chinoise dont tu n'avais qu'un QR code sur un papier livré dans la boîte de ta prise connectée il y a 3 ans. Ouais. En fait, ça voilà, c'est un peu limité. Donc voilà, avoir un vrai standard, ça va probablement faire avancer les choses. Même si c'est intéressant parce que la domotique, c'est quand même un truc dont on parle depuis toujours. Et on voit qu'il y a quand même des limites à l'adoption. C'est-à-dire que t'as des fous furieux, tu vois, qui connectent tout. Le chauffage, le machin, la lumière, le truc. C'est ça, tu t'aboutis, on se croirait dans Mon Oncle de Jacques Tati à la fin, tu vois. Tu ouvres la porte, la lumière passe en bleu, enfin, etc. Ah non, mais parce que tu peux faire des scénarios absolument déments.
Complètement, oui.
Et quand les scénarios s'affolent, c'est là que c'est rigolo. C'est-à-dire que quand tout à coup, c'est ta belle-mère à qui t'as prêté la maison, tu l'as pas avertie du fait que quand tu ouvres la porte et que tu machins, le volet s'ouvre, l'assistante dit bonjour, la lumière passe au vert, etc., etc., et la cafetière démarre.
Ça sera beaucoup plus facile à faire avec Matter, dont voilà. Je vois dans l'article que ça s'appelait Chip avant. On m'a dit dans la chatroom Fred, en fait, peut-être que c'est passé par le nom Fred aussi, et Thierry dans la chatroom, tu as donné le nom Project Connected Home over IP au moment où je l'avais surligné sur le texte. Donc, tu crois que je t'ai pas vu ? C'était sur l'article. Mais oui, c'est vrai que ça risque de faire évoluer les choses. Moi, j'ai beaucoup de Philips Hue qui est très, très bien. Ouais. Mais même ça, avec Apple, ça fonctionne pas trop mal. Mais quand même, parfois, quand je veux passer par les raccourcis pour lancer tel ou tel scénario, j'avoue que ça fonctionne de manière un peu aléatoire. Il faut que je lance telle application.
Voilà.
Machin, c'est bon. Et ben, espérons que Matter permettra de fluidifier un petit peu tout ça. On arrive au moment que Cédric attendait le plus, c'est celui des voitures. Et il y avait des choses assez intéressantes dans les voitures. Je vais te laisser nous dire ce que tu en as retenu. Il y avait des concepts plutôt sympas.
Ouais, ça fait 3 ans maintenant de cette 3e édition où Sony montre son concept, hein, la Vision S. Et là où au début tout le monde s'excitait en disant, ah, Sony a fait une voiture! Et en fait, Sony disait, non, c'est juste une plateforme une vitrine pour des technologies qui sont autour de la voiture, mais on va faire une voiture. Et tout le monde disait, ah, c'est dommage, Sony fait pas une voiture. Et voilà, Sony se dit, bon, si vous insistez, je vais peut-être faire une voiture alors. Ouais, surtout comme on le dit souvent, une voiture aujourd'hui, ça se construit comme on faisait un PC il y a 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire, tu vois, tu vas chercher finalement des composants un peu sur l'étagère, off the shelf, pour faire la voiture dont toi, tu as fait le design, mais dont les grands éléments, tu vas les chercher ailleurs. Mmh. Moteur, batterie, etc.
Ouais, enfin, c'est quand même, industriellement, c'est quand même beaucoup plus ambitieux de construire des voitures que de construire... Bon, peut-être que des laptops, c'est complexe aussi, mais c'est tu vois, ouais, au niveau de...
Non, tu penses qu'ils montent Sony... qu'il monte l'usine.
Ouais, parce que ce qu'on a pas dit clairement, c'est que Sony a établi une nouvelle société qui s'appelle Sony Mobility Inc. pour explorer la possibilité de faire des voitures, de fabriquer des voitures. Alors ils disent pas qu'ils vont se mettre à en fabriquer autant que Renault demain, hein, mais c'est une exploration qui est là pour le coup sérieuse. Ça dépasse le concept.
Tout à fait.
Mais c'est pas facile. On en parlait quand on parlait d'Apple qui s'intéresse aux voitures autonomes. Et c'est quand même une industrie autrement plus lourde de fabriquer des voitures. Mais ouais, tu penses que c'est faisable?
C'est difficile de dire que tu vas être fabricant de voitures si tu n'as pas d'usine. Tu peux le côté je sous-traite tout, c'est-à-dire que ton l'essentiel de ton expertise, elle est dans comme le reste, hein, d'ailleurs, mais en même temps c'est aussi ce qu'Apple fait par ailleurs, elle est dans la construction de l'usine, en gros, dans la construction de l'outil industriel qui te permet de fabriquer, etc. Donc reste à voir, mais dans le cas de Sony, on verra comment ça se passe. Je suis toujours très curieux de voir le truc sur Apple parce que je sais pas.
C'est pas d'Apple qu'on parle tout de suite. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Non, c'était pas le sujet.
Mais du coup, la Vision S de Sony, elle a des choses intéressantes. Moi, je t'avoue que j'ai pas regardé de trop près. C'est plus l'annonce de la.
Ouais, les écrans sont super, le son est génial, les interfaces sont pas mal, la voiture en elle-même, je l'ai pas conduite, d'autant qu'ils le disent bien, hein, c'est encore un truc exploratoire sur oui, ce serait intéressant, mais on va voir, enfin, etc. Donc, j'espère que ce sera assez intéressant pour qu'ils poussent le projet jusqu'au bout, quoi.
Mais je veux dire, la Vision S, c'est une voiture, quoi. C'est pas qu'il y a un truc où tu dis waouh, mais ça, j'ai jamais vu de ma vie. C'est une voiture avec un bel écran. Je veux dire, avant une Tesla, tu te serais peut-être dit waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, bon, c'est une voiture faite par un technologiste, quoi.
Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir. Moi, j'ai été frappé pour tout dire, je suis allé acheter des masques hier, des masques FFP2, et je vois la marque qui est, tu vois, un peu gaufrée sur le masque. C'est BYD. J'ai mis BYD, mais bien sûr, mais c'est une marque de voiture électrique. Et donc, je suis allé voir, et en fait, je suis un peu tombé dans une espèce de rabbit hole, tu vois, mais qui sont tous ces gens qui fabriquent des voitures? Et c'est là où on reprend le truc sur les 200 constructeurs de voitures électriques en Chine aujourd'hui. Donc, il y a une espèce d'explosion d'opportunités. Parce qu'en plus, ça y est, il y a plein de pays, et je parle pas juste de chez toi, où tout à coup on vend plus de voitures électriques que d'autres choses. Mais tout ça, toute cette ébullition va à un moment se calmer un peu autour de grands acteurs, autour de tout ça. Donc c'est
intéressant que Sony s'y intéresse aussi, même si Sony n'est plus comme à la grande époque un acteur aussi essentiel de l'électronique. Enfin, ils sont très importants, bien sûr, mais
c'est triste de le dire, mais je crains que tu n'aies raison.
Il y a BMW qui a présenté un concept aussi. Alors là, c'est carrément plus du gadget. C'est la voiture recouverte d'écran e-ink, donc encre électronique, qui change de couleur du blanc au noir de manière dynamique. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut la faire passer du blanc au noir. C'est vraiment impressionnant.
C'est très beau et ça n'a aucun intérêt.
On est d'accord.
Mais c'est très beau.
C'est
une bête de salon.
C'est ça. On est d'accord.
C'est un concept.
Mettre des écrans, recouvrir la carrosserie de la voiture par des écrans, même si c'est des écrans d'encre électronique, donc pas non plus des trucs super chers.
Ouais, bien sûr.
Bah, c'est un peu, ça semble un peu, oui.
Mais je pense que ça a dû mettre l'étincelle dans les yeux de pas mal de gens amoureux de bagnole. Enfin, mais amoureux de bagnole, genre Jackie Tuning, tu vois ce que je veux dire. Parce que tout à coup, tu peux afficher ce que tu veux. J'ai fait la dernière mise à jour de ma Tesla. Alors, il y a un mode maintenant rigolo où elle te joue de la musique en faisant flasher les phares, ce qu'il faisait sur un ancien modèle, la Model X, où il ouvrait les portes en jouant une symphonie, etc. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, les phares sont des phares à LED, mais à LED avec des petits LED. C'est-à-dire que d'un coup, les phares affichent Tesla
RGB,
sur le mur. Voilà. Non, pas RGB, juste blanc, mais ils peuvent afficher des choses sur le mur devant.
Ah.
Là, ça affiche juste Tesla. Bah oui. Mais...
D'accord.
Voilà, et si tu veux, dans la même idée, imaginez que tu vas pouvoir afficher ce que tu veux en temps réel sur ta voiture.
Mmh.
Par exemple, va te faire foutre, connard, pour le mec qui est derrière toi. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Je pense que, voilà, ça va forcément créer des... Enfin, ça va pousser certains à l'imagination. Peut-être pas vers le meilleur, mais...
Ah, bon, après, c'est que du noir et blanc. Imagine si en plus on peut mettre de la couleur avec de l'encre.
Non.
Ça existe.
Non,
hein,
ou de la vidéo. Oui,
ah oui,
sûr.
De la vidéo.
Au secours.
Autre chose, on revient du côté de Sony, ils ont présenté leur nouveau casque de réalité virtuelle, et là où c'est intéressant pour la tech en général, c'est que c'est le PlayStation VR 2, dont on avait déjà eu quelques informations au cours de l'année précédente. Ils ont juste confirmé le nom et les détails techniques. Le truc qui est vraiment notable, c'est que ça pourrait être un moyen d'amener la réalité virtuelle, enfin, elle est un petit peu dormante, la réalité virtuelle, en ce moment. Elle aurait pu aller vers, on dit, take the way of the dodo, c'est-à-dire disparaître. Mais il y a des projets importants dans ce domaine, et notamment celui de la PlayStation VR 2. Ce qui est intéressant, c'est que ça sera sans doute le casque de réalité virtuelle connecté à une machine puissante, donc pas un ordinateur, mais la PlayStation 5 en l'occurrence, contrairement aux casques Oculus Quest de Meta, de Facebook, qui sont eux des casques autonomes, donc dont la puissance est moins importante. Mais donc, ça sera le casque connecté le plus simple et on n'a pas le prix, mais le meilleur marché si on prend l'ensemble des appareils, avec les performances les plus importantes. Et donc, on imagine qu'ils vont peut-être au moins annoncer une date et un prix cette année, possiblement même le lancer cette année, même si on n'a pas de date. Voilà. Au plus tard, j'imagine, l'année prochaine, donc 2023 au plus tard. Et c'est donc une vraie nouvelle opportunité pour la réalité virtuelle, parce que d'un côté, on a Oculus, donc Meta, qui semble prendre le marché, on en reparlera tout à l'heure, des casques autonomes. Et là, Sony qui offre une vraie possibilité pour les casques connectés, donc plus puissants, plus des graphismes plus attrayants et même assez impressionnants. Et donc, c'est un dynamisme qu'on n'était pas certain de revoir. Mais là, c'est confirmé, ils ont annoncé le nom et tout, et les performances.
C'est le truc qui pêche, hein. c'est la résolution des casques et l'angle de vue. Donc celui-là, j'ai quand même hâte de l'essayer.
Pour vous donner quelques éléments techniques, on aura un écran, si je ne me trompe pas, c'est un écran 4K, donc 2000 par 2000 pixels par œil. Donc
par
c'est
œil,
un
oui.
petit peu plus, oui, par œil, c'est ça. Un petit peu
les
plus.
Les deux yeux vont se partager les 4K, oui.
C'est ça. Et un angle de vue de 110 degrés, ce qui est meilleur que l'angle de vue du premier, bien sûr, qui était un petit peu limité, c'était que 90, je crois. On a des caméras inside-out, donc qui vont vous permettre de vous repérer dans l'espace, de repérer le casque, va se repérer dans l'espace sans avoir besoin de totem posé dans la pièce. Et il y aura un détecteur de... Comment on appelle ça ? Un détecteur d'œil qui va suivre votre œil pour pouvoir voir où vous regardez. D'une part, pour interagir avec les éléments du décor ou de l'application, et pour mieux rendre les endroits où vous regardez sur l'écran, ce qui permet d'avoir une puissance, enfin un affichage graphique meilleur. Bref, c'est toutes les dernières technologies de la réalité virtuelle et ça semble être plutôt prometteur. Je ne vous parle même pas des manettes de contrôle qui sont aussi assez intéressantes. Il y aura même un petit moteur vibrant dans le casque qui va vous permettre d'avoir des retours haptiques pour votre interaction avec les jeux ou les applications. Donc, le premier PSVR était vraiment bien conçu, extrêmement confortable, le plus confortable de loin. Et c'était pas le meilleur produit tech de l'histoire, mais il y a beaucoup d'espoir dans ce PSVR 2 pour le monde de la VR.
Yep.
Bon, je vais pas passer beaucoup de temps sur les processeurs qui ont été annoncés. Intel a annoncé des processeurs, il dit c'est les plus puissants du monde, même plus puissants que les M1 Max d'Apple. C'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, personne ne parlait des processeurs d'Apple pour les ordinateurs. Et maintenant, ils sont obligés de dire ils sont même plus puissants que les M1 Max. Évidemment, ils ont une signature thermique, enfin une consommation énergétique beaucoup plus importante aussi, ce qui est l'un des avantages énormes des processeurs d'Apple. Mais bon, ils ont plein de processeurs, des moins gourmands aux plus gourmands. AMD a annoncé des processeurs et des cartes graphiques. Nvidia a annoncé des processeurs et des cartes graphiques. C'est pas forcément les choses les plus intéressantes parce qu'on n'a pas, c'est des nouveaux modèles d'architecture existantes. C'est pas vraiment des fonctionnalités nouvelles ou hyper intéressantes, donc on va peut-être faire l'impasse sur les détails. Et voilà pour le CES. Je pense qu'on n'a rien oublié, hein, Cédric.
Est-ce que bah, c'est difficile. Il y avait quand même plein de choses à CES, mais pour l'essentiel, oui. Une fois que t'as fait la télé, l'informatique, la mobilité, la domotique, on n'a pas fait la santé, la forme, tout ça, mais c'est dans la droite ligne de la domotique.
C'est ça, pas de choses hyper qui sautent aux yeux. Il y a toujours les histoires de coussin qui vous dit quand vous dormez mal, le truc qui fait dormir le bébé tout seul, enfin tous ces trucs-là, mais bon, c'est plus accessoire. Voilà. Encore que qui fait dormir le bébé tout seul, ça peut être utile pour certains. Vous savez quoi ? Je voudrais vous lire un petit message que quelqu'un a laissé sur iTunes. C'est 51 Dearweed qui dit « Il fait partie de ma famille, ou presque. » Un petit coucou à Patrick et toute son équipe bien sympathique qui inclut hommes et femmes, bravo. Tous sont intéressants et compétents. Après avoir écouté le podcast spécial « Question à Patrick » qui me fait dire « Pizza ananas », il y en a un qui a bien suivi jusqu'au bout. Je me dis que c'est vraiment pas évident le métier de podcasteur avec vie de famille. Merci beaucoup pour ces 5 étoiles sur iTunes. Et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si l'une de vos résolutions, au hasard, ça serait « j'aimerais soutenir les gens qui font des choses que j'aime bien », et si vous aimez bien le rendez-vous tech, peut-être que, en fait, votre bonne résolution, c'est de vous dire ben, « Aujourd'hui, je vais soutenir le rendez-vous tech. Je vais aller sur patreon.com/rdvtech. » Et comme 51 Dearweed qui trouve que ben, on fait presque partie de la famille maintenant, vous nous écoutez régulièrement toutes les semaines, votre fille de 16 ans, par exemple, vous rappelle que vous écoutez Patrick depuis un petit moment et que vous aimez bien ce qu'il produit, et ben, peut-être que c'est le moment de passer pour une petite somme ridicule, minuscule, d'un euro à peine par semaine, même pas le prix d'un café dans certains cafés, et ben vous pouvez soutenir l'émission. Donc, c'est le moment, potentiellement, posez-vous la question, dites-vous, allez, j'y vais, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et je vous remercie tous et toutes de votre soutien. Et bonne année, évidemment.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, un des sujets qui a été énormément abordé pendant les vacances, j'ai vu beaucoup de gens en parler, c'est évidemment les NFT, le Web3, la décentralisation. Et il y a eu plusieurs histoires qui ont illustré un petit peu ces discussions. L'un des éléments importants, c'est qu'il y a une personne qui s'est fait hacker son portefeuille de crypto et qui s'est donc fait voler ses NFT de Bored Apes et Mutant Apes. Alors, pas partir dans les détails, c'est des NFT, des images de différents petits modèles de singes avec des lunettes, avec des casquettes, et il y en a plein de différents, ils se vendent très cher. Il en avait pour à peu près 2,3 millions de dollars, mais c'est pas ça qui est intéressant.
Ouch.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est fait voler parce qu'il s'est fait hacker son appareil avec du phishing. Il s'est fait hacker son portefeuille, donc c'était sa faute. Et suite à ça, OpenSea, qui est l'une des plateformes les plus importantes de vente et d'échange de NFT, a gelé ses NFT. Ce qui veut dire qu'ils ont interdit la vente ou l'échange de CNFT spécifiques qui appartenaient à cette personne pour qu'ils ne soient plus échangeables. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils les récupèrent, mais les voleurs ne peuvent plus les revendre pour en tirer profit. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on tombe sur un point central qui est un point de contrôle, une structure, une société qui contrôle l'écosystème, ou en tout cas une partie de l'écosystème d'échange des NFT. Alors que, évidemment...
Ah mais attends, tu veux dire que c'est pas décentralisé, alors ?
Et c'est bien sûr là qu'interviennent toutes ces discussions. Il y a Moxie Marlin Spike qui a fait un papier extrêmement intéressant. C'est le fondateur de Signal. Hein. Donc, Signal, c'est une application de chat, vous connaissez, hein, open source, très sécurisée, etc., qui vient de quitter son poste de CEO, d'ailleurs, à Signal. Mais il a des analyses intéressantes. Et il a fait un papier où il explique de quelle manière la décentralisation est difficile à réaliser véritablement. Parce que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'enjeu. Et il a montré techniquement, il a fait un NFT qui montre différentes choses aux différentes personnes qui le regardent. Enfin ça, techniquement, laissons-le de côté. Mais en gros, ce qu'il dit, le truc, c'est qu'à un moment, il y a forcément des gens qui vont devoir prendre des décisions. Et donc, la décentralisation, en théorie, ça peut marcher, ça peut être intéressant. Mais dans la pratique, on a toujours des points qui vont se centraliser. Et le web s'est centralisé, non pas seulement parce qu'il y a des grandes sociétés qui ont centralisé les pouvoirs et qui se sont étendues. Ils se sont centralisés parce qu'une plateforme centralisée innove plus vite et mieux qu'une plateforme décentralisée sans responsabilité. Il faut toujours qu'il y ait une responsabilité quelque part. Suite à ça, un des cofondateurs d'Ethereum qui s'appelle Vitalik Buterin a répondu sur Reddit en expliquant en quoi Moxie Marlin Spike a tort. Et ce qu'il a dit m'a paru intéressant, mais ce n'est pas une question de biaisé, mais il a cette vision limitée qu'ont les gens qui sont très accrochés à la technique. Il explique en gros pourquoi aujourd'hui, techniquement, technologiquement, certes, il y a encore des centralisations, mais qu'à terme, la technologie permettra une vraie décentralisation. Et il passe complètement à côté de l'argument de Marlin Spike, qui est que ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de gestion vraiment humaine, de centralisation des décisions et de puissance d'innovation quand on a le pouvoir justement de faire ces décisions plus vite. Donc, ce débat était hyper intéressant et moi, j'avoue que je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que même si la décentralisation est possible, c'est difficile à implémenter de manière vraiment efficace pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas si ton avis est similaire ou si tu vas me dire que la décentralisation peut effectivement être plus performante que la centralisation. Mais...
Alors, en tout cas, au début... C'est difficile d'imaginer des trucs entièrement décentralisés. Ça dépend. C'est vraiment c'est presque, comme dirait l'autre, une question d'operating system. Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est tellement le début. Truc ouais. Sur les NFT. Moi, je commence à, j'ai une petite NFT fatigue en ce moment.
T'es pas le seul.
Non, enfin.
Mais on parle plus de décentralisation, vraiment. Les NFT, je vais
oui, tout à fait. Mais... Oui, c'est autre chose. Mais, le truc, c'est que c'est important qu'on arrive à mettre en place quelque chose qui fonctionne. Parce que les enjeux derrière sont super importants. Enfin, la promesse est telle que ce serait dommage qu'on passe à côté. Mais évidemment, pour tous les gens qui ont envie d'investir le secteur, la tentation de la centralisation, elle est là. C'est difficile de te dire que tu vas lâcher le contrôle. Oui. Donc si on n'est pas sur une totale décentralisation, faut au moins garantir une totale interopérabilité. Enfin, il y a plein d'enjeux, quoi.
Ouais, je dirais que la décentralisation réelle pourrait peut-être intéressante pour certaines choses, mais c'est un petit peu comme l'open source. L'open source a des avantages et est très certainement très utilisé dans de nombreux cas, mais tout ne peut pas être en open source parce que ça a aussi des désavantages. Donc, c'est des outils qu'il est bon d'utiliser là où ils sont les plus performants. Et je crois que dans le cas de la décentralisation, si un jour on arrive à quelque chose de vraiment décentralisé, et même aujourd'hui, la blockchain, bah, par nature, il y a il y a une discussion sur le fait que les gens vont pas vouloir mettre leur nœud de blockchain à la maison parce que c'est pas pratique, c'est pas intéressant. Et d'un autre côté, en étendant un tout petit peu le discours que prenait Bouterine, il disait, on pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, n'importe qui a un Android, enfin, tout le monde peut acheter un Android qui est à la base basé sur un OS open source. Et donc, yep. D'une certaine manière, l'open source est arrivé chez les gens, même si c'était compliqué, tout le monde peut avoir un truc qui est plus ou moins open source. Donc, le truc qui est compliqué, en fait, avec les NFT, la blockchain, les cryptos, tout ça, le truc qui est compliqué, c'est que ça semble, pour certains de leurs projets, trop fou pour être possible. Et il est bon d'avoir une certaine... d'être dubitatif par rapport aux projets vraiment fous. Mais, d'un autre côté, les trucs les plus intéressants et les plus révolutionnaires, c'est aussi des trucs qui sont complètement, qui semblent complètement fous à la base. Donc, faire la distinction entre ce qui est juste fou, débile, et ce qui est fou, révolutionnaire, et donc on ne le comprend pas parce que c'est trop révolutionnaire, il y a des gens qui vont dire « mais oui, je sais bien, c'est parce que ceci, cela ». Et c'est pour ça que j'ai du mal à condamner unilatéralement toutes ces technologies, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va s'avérer finalement être un truc « bah oui, on ne l'avait pas vu venir et c'était en fait intéressant pour telle et telle application auquel on ne pense même pas aujourd'hui ». Je vous avoue qu'il y a quand même un petit peu plus de dubitatif de mon côté, de plus en plus sur ces technologies-là, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et d'autres. Bah justement, il y a un article extrêmement intéressant, là encore, de Paul Butler. Il sera dans la newsletter, d'ailleurs, cet article. Donc, je vous encourage à vous abonner à la newsletter si vous souhaitez le lire sur notepatrick.com. Mais pour résumer, il passe en détail les défauts d'une économie du jeu vidéo basée sur les NFT. Et je ne vais pas réexpliquer ce que sont les NFT, hein, en détail, mais très rapidement, les NFT, c'est la possibilité d'avoir la propriété d'un objet numérique. Et beaucoup de sociétés de jeux vidéo sont en train de se lancer dans cette tendance pour donner la propriété d'objets numériques en jeu aux joueurs. Et donc, ils lancent cette mode du « play to earn » et pas du play to win ou ce genre de choses, c'est play to earn, donc vous jouez pour posséder quelque chose. Et l'effet qu'on voit sur l'un des jeux qu'il prend en exemple, Paul Butler, qui s'appelle Axie Infinity, c'est que, en gros, c'est des Pokémon qu'on peut posséder et revendre. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'aux Philippines, il y a énormément de gens dont c'est le boulot d'aller jouer au jeu pour récupérer des Axie, donc des sortes de Pokémon, et les revendre à des gens qui sont dans des pays plus riches qui, pour se faire de l'argent. Et on avait vu des éléments de ça avec d'autres jeux comme les MMO, comme World of Warcraft, où il y avait des fermes de gens qui jouaient au jeu pour accumuler de l'argent en jeu et le revendre pour de l'argent réel, ce qui était illégal à l'époque, enfin illégal, interdit par Blizzard Entertainment. Donc, c'était très souterrain. Mais là, c'est la base du truc. Et donc, ça influence l'économie du jeu d'une manière telle que ça ne peut mener qu'à ce genre de résultat où il y a des gens qui vont se mettre à en faire une sorte de travail pour le vendre et ça ne mène qu'à la spéculation. Alors lui, il en parle sous l'angle des bullshit jobs, qui est, je vous laisserai aller le lire, c'est très intéressant. Mais son analyse sur l'intégration des NFT aux jeux vidéo m'a paru assez juste. Et ça ne veut pas dire que tous les NFT ne vont que dans cette direction. Mais en tout cas, l'intégration aux jeux vidéo m'a paru très intéressante. Et je pense que c'était important à noter dans le rendez-vous tech aussi. On en parlera dans le rendez-vous jeu, évidemment, peut-être un peu plus longuement.
Je n'en doute pas.
Et l'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est que beaucoup de sociétés de jeux vidéo se sont mises à implémenter des NFT dans leurs jeux et sont en train d'explorer ces concepts en tout cas. D'un autre côté, Associated Press, donc l'agence de presse américaine, est en train de lancer une plateforme de NFT de photojournalisme qui va permettre aux Kidam d'acheter des photos ou peut-être d'autres choses, de journalistes pour financer le journalisme. Alors évidemment, ces photos seront des images, hein, comme tous les NFT. Souvent, c'est juste une image. On peut faire clic droit, copier et vous l'avez aussi. Mais le fait de se dire « j'ai la propriété », vous entendez les guillemets, de telle ou telle photo connue, et en plus, je finance le journalisme de qualité, peut-être que ça peut être une source de revenus intéressante pour AP, pour Associated Press, et c'est une utilisation qui me semble pas déconnante des NFT.
Alors, il faut définir du coup ce que tu achètes quand tu achètes le NFT. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu achètes la propriété de la photo ? Parce que du coup, ça peut avoir, ça peut être un nouveau modèle économique pour une agence dont le modèle est fondé sur la vente de droits de publication de la photo, mais pas de la photo elle-même. Et du coup, ils peuvent décider, de mettre toute une partie de leur catalogue en NFT en disant finalement, on sera la plateforme où des tierces parties viendront chercher les droits des photos, mais on n'en sera plus propriétaire. Mais voilà, les gens nous auront acheté le NFT. C'est intéressant.
À mon avis, ils vont pas vendre le droit de la photo, hein. Ou peut-être. Tu crois ?
Pourquoi pas ? Ils pourraient choisir de le faire sur une partie du catalogue.
Peut-être.
Tu vois, comme quand Life ou Time, etc., vendent des négatifs de photos célèbres. Bon, ça se vend très cher. Hein. Moi, pour avoir voulu, il y a un ou deux ans, Paris Match a mis toute une partie de sa collection photo aux enchères. Il y avait des choses extraordinaires. Il y avait des choses remarquables. Mais ils ne te vendaient que des tirages originaux. Ne te vendaient pas le négatif. Tu vois, la fameuse photo de Jacques Chirac dans le Concorde avec ses chaussons, les photos de Mohamed Ali. Enfin, il y a des trucs remarquable et c'est parti quand même à des prix qui faisaient un peu peur.
Donc une utilisation intéressante. On va passer le reste des sujets NFT comme Norton qui inclut un mineur que vous pouvez activer ou pas, mais forcément ça ne rapporte pas grand chose hein, parce que il y a des gens qui font ça là encore de manière centralisée avec des fermes énormes de minage d'Ethereum et vous avec votre petite 3060 Ti, vous n'allez pas miner grand chose. Et parlons un petit peu d'un autre terme bien en vogue, la VR et le métavers. Deux choses que je voudrais évoquer. D'une part, en introduction, un truc que je dis régulièrement depuis qu'on commence à parler de métavers, il y a un truc qui me m'horripile et que qu'un article du Washington Post explique bien, c'est que tout ce que les gens appellent avec moquerie « Oh, le métavers, ça existe déjà, Second Life, c'est le métavers, Roblox, c'est le métavers, Minecraft, c'est le métavers », ça n'est pas le métavers. Quand on parle du métaverse, on parle de quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus lointain. C'est pas juste un monde virtuel en 3D. J'avais fait un long thread Twitter très énervé il y a genre deux semaines et clairement, Washington Post m'a emboîté le pas. Ce qu'on appelle le métaverse, c'est le rendu photoréaliste d'environnement ou de personnes qu'on peut implémenter n'importe où de manière interopérable. Et ça a des implications beaucoup plus grandes que juste on a créé un monde virtuel en 3D qu'on peut explorer depuis son écran ou depuis un casque de réalité virtuelle. Ça n'est pas du tout la même chose. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Oh, le métavers, ça existe depuis longtemps, regardez Second Life », vous pouvez rire intérieurement pour pas être mal poli en lui riant au nez, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est comme évoquer, je sais pas moi, les premiers téléphones portables qui étaient des valises qu'on installait dans sa voiture et un iPhone aujourd'hui qui vous donne accès à toute la connaissance du monde dans votre poche. Ça n'a rien à voir.
Nope.
Bref, deux choses sur les univers virtuels. Il y a Sony et Manchester City, le club de foot, qui sont en train de travailler sur la reproduction d'un stade, le stade de Manchester, j'imagine, en univers virtuel, de manière aussi photoréaliste que possible, pour explorer les possibilités que ça pourrait donner. Et si on se laisse imaginer un instant ce qu'on pourrait faire avec un stade photoréaliste et des joueurs photoréalistes, alors ils vont pas jusque-là, mais si on imagine qu'ils vont reproduire en direct les mouvements des joueurs et le mouvement de la balle de manière fidèle pendant un match, ou peut-être même après le match, eh ben ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes. C'est-à-dire que si on met un casque de réalité virtuelle et on peut voir le match avec des angles différents, ou même, à vrai dire, peut-être... Enfin oui, avec un casque de réalité virtuelle ou même sur son écran, mais les possibilités... Je ne sais pas si ça serait intéressant. Ça se trouve, c'est comme la 3D sur les télés, ça n'a pas d'intérêt et personne ne veut de ça. Mais... ça titille l'imagination, je dirais. Peut-être qu'on va vouloir voir le match en direct, en suivant, comme dans un jeu vidéo, peut-être comme si on imagine un drone qui suit le joueur dans son dos, un petit peu au-dessus, tu vois, et suivre une action de cette manière, en étant au milieu du stade, tu vois, ce genre de choses. Mm-hmm.
Alors, c'est des choses qui ont déjà été explorées pour faire des replays virtuels, etc. Je réfléchis à haute voix. Il y a plein de choses qui ont été explorées parce que ce qui est intéressant, c'est que le sport et le foot en particulier, on sait qu'il y a un marché. On sait qu'il y a de l'argent. C'est pas compliqué de financer des projets innovants.
D'ailleurs, ils se lancent tous dans les NFT. Hein. Ils font un argent totalement fou, tous les clubs de foot avec des NFT, de manière sans aucune régulation.
Avec les Chili's et tout ça, oui, bien sûr. J'ai vu la valeur. Presque le token du PSG de ça, c'est 300 millions. Enfin, ils sont tous entre 3 et 600 millions. Ouais. Non, il y a ça. Mais c'est intéressant parce que ça leur donne des moyens de surfidéliser et de monétiser aussi leurs super fans.
Oui.
Le super fan de l'équipe de foot jusque-là, bon, ça, c'est autre chose. Mais sur les premières applications du métavers, c'est ça. En fait, c'est ça qui manque. C'est-à-dire que c'est un truc qui manque de killer app. Tu vois, Microsoft te dit, vous verrez, dans 2 ans, tous vos meetings se feront dans le métaverse. Tu dis, really? Enfin, c'est ça. C'est à chaque fois qu'on te décrit un truc, tu dis, ouais, j'irai voir, hein, mais bon, voilà.
Pour moi, le truc qui manque, c'est cette histoire de photoréalisme. Si tu réussis à avoir un truc qui est tellement réaliste que tu as l'impression d'y être, plus ou moins... Là, le sentiment de présence est accru et tu peux manipuler la réalité. C'est un petit peu la matrice, quoi. Et tu peux faire ce que tu veux avec la présence des gens. Tu peux mettre la présence des gens au milieu du stade, alors que physiquement, ce n'est pas possible de mettre quelqu'un, tu vois, tous les fans au milieu du stade. Même avec une caméra, ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, pour moi, ce genre de choses, ce n'est pas dans 2 ans, c'est peut-être même pas dans 5 ans. Pour arriver à ce genre de performance, il faut voir à 10 ans, tu vois, et c'est maintenant qu'ils commencent à le construire. Il y a une autre vidéo qui a fait le tour du web, qui est cette vidéo, c'était Walmart, je crois, qui avait fait une vidéo concept de regardez, on peut, nous, dans le métavers, vous faire une expérience shopping dans nos magasins. Et ils ont reproduit en fait un 3D, un magasin avec, mais alors c'est du 1 pour 1, hein, c'est-à-dire qu'on a les rayonnages, les produits alignés, et puis il faut l'attraper avec la main et le mettre dans le caddie.
Tu pousses ton caddie en mode first person shooter, mais sans shooter.
C'est ça. Alors c'est proprement ridicule.
Mais oui, mais alors...
J'ai un mais, moi, mais ouais, oui, t'en as un autre aussi.
Je sais, parce que j'ai eu mes discussions familiales à propos de ça. D'accord. Moi, ça m'a énervé profondément en disant, mais c'est pas possible que des gens qui ont tous les moyens du monde, en gros, n'arrivent qu'à ça comme concept. Juste arriver à reproduire en 3D l'expérience du magasin et du caddie. Enfin, c'est quand même une inanité totale. Et finalement, j'ai creusé un peu. En fait, cette vidéo, elle date de 2017. C'était un concept pour je ne sais quel truc qui a été fait par une agence avec Walmart et tout ça. Enfin, en gros, passez-moi l'expression, ça pissait pas loin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'était juste l'idée de recréer une expérience graphique de ça ressemble à quoi le supermarché virtuel. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que c'était... Tu vois, il y a beaucoup d'effets en trop. Enfin, tu dis, non mais je veux pas... Tu vois, avec des, tout à coup, les rayons s'effacent sous tes pieds. Il y a un nouveau rayon qui arrive avec... Shring, 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 shring. Tu dis, je suis venu chercher un poulet, une douzaine d'œufs et un kilo de carottes, quoi. Et donc, j'ai arrêté de m'énerver en disant si c'est ça la vision, ça n'a aucun intérêt. J'ai vu que j'étais pas le seul à être énervé. Mais bon, en fait, il y avait pas de quoi s'énerver. Voilà, on s'est un peu monté le bourrichon sur un truc qui n'avait pas l'ambition de nous dire ceci est le monde de demain. Ouais. Non, pas du tout. C'était voilà.
C'était effectivement une vieille vidéo de 2017.
J'écoute ton mais.
Alors, mon mais. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc qui, évidemment, quand on va faire du shopping, l'idée aujourd'hui, pour beaucoup de choses, c'est qu'on veut éviter de s'emmerder à marcher dans les rayons. Si on peut éviter de le faire, bah, c'est pas pour se le recréer en 3D. Par contre, un truc qui nous manque, c'est les showrooms. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont encore à la Fnac ou chez Darty ou ce que c'est, regarder les télés et regarder les objets. Alors, peut-être que dans le monde virtuel, on n'aura pas la possibilité de voir exactement la différence de qualité d'une télé par rapport à l'autre. Mais le sentiment d'aller se balader, tu vois, pour certains types d'achats, d'aller se balader dans un endroit physique pour observer la taille, la manière dont ça, la chose à quoi ça ressemble, enfin, tu vois, le fait d'avoir une sorte de contact presque physique avec les objets, ça peut avoir une certaine valeur. Et encore une fois, c'est un gros mais, et si on arrive à un sentiment presque photoréaliste, eh ben peut-être que cet effet showroom pourrait être recréé, pas complètement, mais de manière intéressante, en 3D. Et ça ressemblerait un tout petit peu à certains éléments qu'on voit dans cette vidéo. Donc, de là que j'étais moi aussi très, très énervé, je me disais, enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On n'a pas besoin de ça, machin. Je me suis dit, ouais, mais attends une seconde. La raison pour laquelle je vais à la Fnac aujourd'hui, c'est rarement pour acheter un truc, tu vois. C'est pour voir à quoi ressemble telle ou telle chose et pour avoir cette sensation d'être physiquement avec l'objet que je vais ensuite commander en ligne. Et donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, je crois aussi.
Alors, il y a une chose sur laquelle il faut continuer de creuser, en fait.
J'aurais dû intituler une analogie comme les carottes râpées. Je vous la ferai pour la prochaine fois. Merci, la chatroom. Pardon.
C'est que tous nos environnements sont super en termes d'accessibilité, de tout ça, de rapidité, de trucs. Tu as des milliards, des millions d'applications accessibles en 5 secondes, etc. Mais tous ont un énorme défaut, c'est le manque de, comme on dit en pas français, de découvrabilité. C'est-à-dire, tu sais que dans l'App Store, il doit y avoir une centaine d'applications que tu serais ravi de découvrir si tu savais qu'elles existaient et si tu savais comment y arriver. Pas juste en le cherchant par un mot-clé parce que tu cherches un truc spécifique, mais juste en découvrant. Comme que quand tu arrives devant un kiosque à journaux, tu vois, en disant « Ah, attends, il y a un magazine sur ça, mais c'est incroyable, je vais l'acheter. » Ben voilà, le problème, c'est que découvrir de nouvelles choses devient très compliqué. Tu vois tout l'argent que Netflix a investi et d'autres, hein, toutes les plateformes, justement, pour te permettre de faire du browsing un peu efficace ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des fois tu passes ta soirée à choisir ce que tu vas regarder, bon bah il est trop tard maintenant, bah, on regarde rien finalement. Je viens de faire 2 heures de death scrolling sur Netflix en disant ah tiens il y a ça, ah ouais il y a ce film là, j'avais oublié. Bon bref, voilà, doom scrolling pardon. Et donc de fait, explorer des environnements en 3D, du coup, qui vont te permettre de découvrir des choses. Ça a plein d'applications. Hein. C'est pas juste la culture, le divertissement, le commerce. Mais je pense, personne n'a réussi, par exemple, encore aujourd'hui, à faire un salon, au sens de salon professionnel, tu vois, un CES, un machin, virtuel. Ça n'existe pas, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. C'est soit trop compliqué, trop chiant, trop machin. Et là encore, ça répond à « tiens, j'ai envie de voir ça, ça et ça », mais ça ne répond pas à « tiens, je vais aller le nez au vent découvrir des choses au hasard ». Non, ça, c'est pas fait pour. Et donc peut-être que le métaverse aura des choses à nous proposer de ce côté-là, mais c'est vrai que l'espèce de, là encore, d'ébullition autour de ça... Faut pas oublier, si on en parle, c'est parce que Zuckerberg a décidé que Facebook s'appelait Meta. Si tu veux là encore raisonner par analogie, c'est vraiment comme si ton papa t'offrait un poney pour te faire oublier qu'il a sauté la bonne, quoi. voilà. Et là, tu dis, ah, un poney. Ah, c'est chouette, un poney. Voilà.
Je serais pas aussi catégorique que toi sur Meta, pas sur les gens qui
ont des poneys. Pour l'instant, à ce stade, le métaverse de Meta, c'est un poney, c'est pas une licorne, quoi.
Oui, mais personne n'a dit... Tu sais, c'est ça qui me frustre dans cette histoire, c'est que Zuckerberg a passé 2 heures, et sans du tout oublier toutes les critiques qu'on peut émettre à l'égard de Facebook et de Meta, il a passé 2 heures à dire « on est en train de travailler sur un truc qui deviendra peut-être réalité dans 5 ou 10 ans ». Et ce que tout le monde retient, c'est « oh lol, regarde la vidéo de Walmart de 2017, c'est trop trop con ». Tu vois, c'est ça qui me frustre, c'est que...
C'est injuste, bien sûr.
Non, mais c'est pas... C'est, alors attends, ça, tu donnes l'occasion pour défendre Mark Zuckerberg. Littéralement, vas-y. Tu donnes l'occasion de faire ceci. Voilà, première utilisation en émission de mon beau jingle, c'est l'avocat du diable. Alors, je ne veux pas défendre Zuckerberg, mais ce n'est pas parce qu'il est l'architecte de Facebook et que Facebook a énormément de choses à se reprocher, et lui aussi, ce n'est pas pour ça que tout ce qu'il dit n'a aucun sens et est risible. Et ce n'est pas pour ça que le métavers qu'il promet n'a aucune chance d'avoir des applications réelles. Et ça, c'est un truc qui me frustre beaucoup dans les réactions de foule et de masse du net et du monde. C'est qu'on s'emballe sur un truc pour les mauvaises raisons. Et là, on s'emballe sur l'idée que... et c'est peut-être un ras-le-bol aussi avec, comme tu dis, les NFT, les bitcoins et les crypto-bros et tout ça. C'est genre, oh, allez, tout ça à la poubelle. Et le métaverse dans l'eau. Mais c'est des choses complètement différentes. Et on parle de choses, on critique des choses, on critique Zuck en pensant à des choses dont il n'a pas parlé. Lui, quand il parle de métavers... Encore une fois, il ne parle pas d'environnement virtuel en 3D qui existe déjà. Il parle d'autre chose qui sera peut-être mis en place d'ici 5 ou 10 ans. Et donc, il y a une déconnexion là qui me semble contre-productive. Bref.
Ok. Soit.
Non, je n'étais pas convaincu, mais on réessayera un autre jour. Un tout petit point, je ne vais pas en parler très longtemps, mais sur la tech et la répression en Chine et un tout petit peu en Russie aussi. C'est des sujets que j'évoque régulièrement parce que je crois qu'il est important de garder une image claire de ce qui se passe dans le monde et en particulier en Chine, où la tech connaissait un essor absolument invraisemblable et on le sait, on en a parlé en 2021. Le Parti communiste chinois a... commencer à réprimer de manière assez violente l'industrie de la tech dans son ensemble, mais ça va plus loin que ça. Et il y a eu des chiffres, le nombre d'apps disponibles a été divisé par deux, on a des influenceurs qui se sont fait effacer du net, il y a 20 000 influenceurs qui ont disparu du net en 2021. Ils n'acceptent que le contenu wholesome, bienveillant, et en gros, qui ne critique pas le parti. Et il y a une enquête, là encore, qui sera dans la newsletter, une enquête du New York Times sur la manière dont le gouvernement chinois retrouve et menace et harcèle ses ressortissants, y compris qui vivent à l'étranger, pour leurs actions, leurs communications sur Internet. Et il y a des choses absolument terrifiantes où des gens qui postent de manière, ils pensaient anonymes sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux depuis l'étranger, reçoivent des coups de fil de la police locale en Chine, qui sont venus interroger leur famille, qui leur demandent est-ce que vous êtes le propriétaire de tel ou tel compte Twitter, et on ne sait pas comment ils les retrouvent. Enfin bon, bref, c'est tout un ensemble de choses qui ont été mises en place depuis 2021, sont vraiment préoccupantes. Je vous invite à aller lire cet article qui sera dans la newsletter et d'une manière générale, peut-être à vous intéresser d'un petit peu loin à toutes ces choses-là parce que c'est assez préoccupant. En Russie, le régulateur des médias a imposé à Netflix de devenir un service audiovisuel qui est enregistré dans le pays, ce qui veut dire d'une part qu'ils doivent proposer des services, enfin des chaînes russes locales, une vingtaine de chaînes russes locales. Là, on peut se dire encore, bon bah ok, ça c'est normal. Enfin, on peut comprendre qu'un pays dise, bah sur les services audiovisuels, il faut que vous ayez du contenu local, ok. Sauf que un autre petit alinéa du règlement qui s'applique à ces services, c'est que bah, ils ne peuvent plus héberger de contenu extrémiste. Là encore, vous entendez les guillemets. Le contenu extrémiste, on l'avait montré il y a quelques semaines quand on en parlait dans l'émission, bah, d'une manière générale, ça veut dire contenu hostile au gouvernement et en particulier le contenu qui défend Alexei Navalny, qui a été emprisonné, c'était l'un des, sans doute le dernier opposant crédible à Vladimir Poutine. Et du coup, on peut se dire que si un jour, par exemple, il y a un documentaire sur Navalny ou ce genre de choses, eh ben Netflix ne pourra pas ou n'aura pas le droit de l'héberger en Russie. Voilà, c'était juste deux petits mots sur la Chine et la Russie, qui sont des puissances extrêmement importantes et qui
sur la complication, hein, où que tu sois, les règles. Et donc, c'est un choix, en fait, de savoir est-ce que tu as envie d'être présent dans ces pays quand tu es un service, quand tu as une grande plateforme. C'est difficile de dire non. C'est quand même des endroits qui viennent avec des règles auxquelles on est moins habitué chez nous, même s'il y a des règles sur plein de choses, mais qui ne sont pas forcément de cet ordre-là.
Je dirais que ça, c'est un élément important, bien sûr, mais il y a aussi l'autre élément qui est que, justement, la facilité de communication qu'amenait la technologie amenait une ouverture et une connaissance. Je ne sais pas ce qui sonne derrière chez toi.
Il y a un truc qui sonne ? Ah oui, flûte, pardon, excuse-moi. c'est un capteur de CO2 que je suis en train de tester.
Ah, d'accord. Ouais. Ça va, tu peux, t'es pas en train de suffoquer, du coup ?
Non, c'est bon, j'ai ouvert la fenêtre, tout va bien.
OK. La communication, la facilité de communication qu'amenait la technologie et Internet dans ces pays ouvrait un petit peu une fenêtre sur le reste du monde. Et c'est très récent, ce revirement totalitaire aussi drastique en Chine et en Russie. Ça fait, allez, un an en Chine et 2 ou 3 ans en Russie. Et donc, ils sont en train de verrouiller complètement leur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas... Aujourd'hui, on peut se dire, ah bah oui, évidemment, ils ont fait comme ça. Mais il y a 2 ou 3 ans, et en Chine, encore une fois, ça date d'il y a un an, ce n'était pas du tout le statu quo. Et donc, ce n'était pas quelque chose d'évident. Je crois qu'il est intéressant de le noter malgré tout.
En Chine, c'est compliqué parce que c'était quand même verrouillé assez sévèrement depuis longtemps déjà. C'est-à-dire que, tu vois, on se souvient, Google était en Chine. Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans maintenant que Google n'est plus en Chine.
Non, mais là, ils avaient le grand firewall. Mais là, on atteint des niveaux... inimaginable. C'est-à-dire qu'ils vont chercher... La personne dont je vous parlais, qui tweetait depuis, c'était l'Australie, elle avait 100 followers. C'est pas quelqu'un qui était un influenceur majeur, ou même un micro-influenceur avec 5000 followers. C'était une personne normale. C'était une personne normale, juste un ressortissant chinois, une ressortissante chinoise qui habitait en Australie, et ils lui disent, bon, alors, quand votre visa est échu en Australie, soyez gentil et venez nous voir. Dans le commissariat. Et il retourne le téléphone et il y a son père qui est dans le commissariat, tu vois. Et encore une fois, c'est une personne qui a 100 followers sur Twitter. C'est, donc, tu vois, c'est une autre étape. Évidemment que la Chine, enfin, je ne suis pas en train de vous dire que c'était un pays qui était une démocratie ouverte il y a 3 ans et que tout à coup, ils se sont dit, Xi Jinping s'est dit, oh, maintenant, on va verrouiller. Non, mais on atteint des niveaux, tu vois, quand même.
Ouais.
Allez, dernier petit tour par... est-ce que tu as encore 1 minute pour qu'on parle Apple ou...
Bien sûr, avec grand plaisir.
Alors, Apple a atteint les 3 milliards de capitalisation boursière. Visiblement, je crois que c'est qui ? C'est Amazon qui les a rejoints ou je ne sais plus. Quelqu'un d'autre les a rejoints, mais 3 billions de capitalisation boursière.
Donc, 3 000 milliards, oui.
3 000 milliards, c'est ça. 3 000 milliards de capitalisation boursière pendant les vacances, là. Tim Cook fait plutôt un bon boulot pour les actionnaires. Et puis, il y a d'autres petites rumeurs. Je vous parlerai d'une rumeur qui est intéressante. Le casque de réalité mixé d'Apple, qui pourrait être annoncé, voire lancé cette année, en 2022, prendrait
au
le
moins, au moins, au moins dévoilé.
C'est ça, au moins dévoilé.
Parce qu'il va lui falloir du contenu. Donc, la logique serait qu'il le dévoile à Adobe DC, à leur conférence développeur.
C'est ça,
exemple.
Exactement. Et il semblerait qu'il ne soit pas un casque prévu pour être porté toute la journée. Ce n'est pas une sorte de remplaçant de l'iPhone. C'est un truc qu'on porte de manière, ponctuelle pour avoir une expérience de telle ou telle nature. Mais ce n'est pas un truc qu'on va... Ce n'est pas des petites lunettes super légères qu'on va porter tout le temps. Ça m'a paru être intéressant à noter là aussi.
Absolument. Moi, il y a une rumeur sur laquelle on compte beaucoup, c'est l'iPad Max. C'est-à-dire un iPad qui serait un 15 pouces, un iPad 15 pouces. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution du format du laptop. Maintenant que les choses se croisent en termes d'applications, de processeurs, c'est-à-dire que j'ai devant moi un Mac qui est épais comme... est-ce que j'ai déjà eu un iPad aussi épais que ça ? Non, peut-être pas, mais pas de beaucoup. La tentation de faire en sorte que les courbes se croisent doit être assez forte chez Apple et chez les autres. Et vu qu'en plus, c'est quand même des variantes des mêmes processeurs. Enfin bon, voilà, tout ça est intéressant. Et moi, j'aime beaucoup les très grands iPads.
Écoute, le 15 pouces, effectivement, c'est une rumeur qui est assez persistante. Bon, je conclurai en te demandant, est-ce que tu as joué à Wordle pendant les vacances ?
Ah oui, j'ai essayé. Ouais, c'est chouette. J'aime beaucoup. Mais si, alors, il y a un équivalent, enfin, un équivalent français. En fait, c'est Motus. Hein,
oui.
Voilà. Et un développeur qui l'a fait, mais t'as le droit d'y jouer une seule fois par jour. Enfin, c'est un mot par jour.
C'est ça.
C'est une immense frustration. Moi, ça m'énerve.
si vous savez pas ce que sont les petits diagrammes avec des carrés noirs et verts et jaunes que vous voyez sur Twitter, bah, c'est Wordle. C'est un jeu auquel on joue. C'est un Motus une fois par jour qui est hyper, hyper populaire. Je pense que... D'ailleurs, j'ai déjà vu une autre application qui fait le même genre de promotion sur les réseaux sociaux. C'est génial ce coup d'envoyer le résultat sur les réseaux sociaux de cette manière. Et je pense qu'énormément de jeux et d'applications vont s'y mettre parce que ça a une viralité hyper importante. Et puis un dernier mot, vous vous souvenez qu'on parlait d'une base lunaire sur la face cachée de la Lune qui avait été repérée par U2, le rover lunaire chinois. Eh bien, il a réussi à s'en approcher. Et au final, surprise, ça n'était pas la base lunaire américaine dont on parlait depuis bien longtemps, qui était une sorte de légende urbaine depuis bien longtemps, c'était un rocher. Et on a une image de ce rocher qui ressemble à un lapin. mais qui nous dit que, sachant que le rover était en train d'arriver, les Américains n'y sont pas retournés secrètement pour enlever la base et la remplacer par un rocher ? Ou alors, ils n'ont pas un camouflage, parce qu'il est encore à plusieurs dizaines de mètres, hein, ils n'ont pas un camouflage holographique pour faire croire que ça n'est pas une base. Ben, on ne sait pas. On ne sait toujours pas, Cédric. Merci, Cédric, d'avoir été avec moi pour discuter de tous ces sujets tech
toujours
passionnants.
Toujours un plaisir.
Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Le plus simple, @Cédric sur Twitter. Et puis maintenant que les news du CES sont arrivées, je vais peut-être tenir ma promesse et faire un nouvel épisode des Doigts dans la Prise. On se parlera de tout ça.
Yes, très très bien. Les Doigts dans la Prise, le podcast sur les voitures électriques le plus populaire au monde.
Du monde francophone connu. Entier. Del mundo mundial, comme diraient les Espagnols.
Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous voulez rejoindre la formidable communauté des Patriotes, qui sont les personnes les plus extraordinaires du monde, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez, pour une somme totalement modique, à hauteur de 1 euro par semaine, 1 euro par épisode, qui, j'espère, ne sera pas un poids trop important pour vous. Si c'est le cas, évidemment, si vous n'avez pas de quoi soutenir les créateurs, pensez à vous en premier. Mais si vous pouvez... vous passez d'un de vos petits cafés par semaine, patreon.com/rdvtech, j'apprécie énormément et je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!